Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission du confort dans l'habitat avec Promotelec. Nous allons aujourd'hui parler des évolutions apportées par la future réglementation environnementale qui va concerner prochainement les bâtiments qui vont être construits. Pour cela, nous avons le plaisir avec Florence Delettre, directrice générale de Promotelec, d'accueillir Brice Lalonde, président d'EDEN, équilibre des énergies, et ancien ministre de l'écologie dans un gouvernement précédent. Et puis Franck Ovorka, directeur technique et innovation de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau.
Bonjour.
Bonjour.
Le confort dans l'habitat, parole à Florence Delettre, directrice générale de Promotelec.
Messieurs, bonjour. On est aujourd'hui réunis pour parler de la future réglementation 2020 qui sortira en 2021 et de ses impacts, ses conséquences, ses améliorations. Il faut savoir quand même que c'est pas la première réglementation. Je pense que depuis qu'on a eu les chocs pétroliers, elles se sont multipliées. Elles avaient à chaque fois la prétention de réduire l'impact énergétique, la consommation énergétique. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense que c'est aussi pour ça qu'une nouvelle étape s'annonce devant nous. On a une immense forêt de, je dirais, carbonée. Donc, comment faire pour décarboner nos bâtiments, nos villes? Quelles sont les urgences que nous devons traiter aujourd'hui? On a un parc immobilier qui est vétuste ou qui a besoin de rénovation. Donc, cette nouvelle réglementation, on la voit comme un tremplin, comme un levier très important. J'aurais une question à vous deux. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tous les moyens sont en place pour lutter contre le réchauffement climatique, pour améliorer la performance des bâtiments, que ce soit la performance énergétique, la qualité de l'air, de garantir la fraîcheur pendant les mois caniculaires? Donc est-ce que cette nouvelle étape est suffisante?
Le confort dans l'habitat, l'invité.
Alors, Brice, là, on équilibre des énergies. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots au travers de ces missions et de ces actions?
Oui, équilibre des énergies, EDEN, en quelque sorte, c'est son petit nom. C'est une association d'entreprises où vous avez parmi nos membres les constructeurs automobiles, parce qu'il faut les aider à passer à l'électrique. Il faut donc savoir si les infrastructures de recharge sont là. Il y a les constructeurs de bâtiments, hein, les grands groupes français constructeurs de bâtiments, puisque là encore, on va en parler, le bâtiment doit se mettre au bas carbone. Mmh. Et puis, il y a les chaudiéristes, le génie thermique, et puis les distributeurs, producteurs et transporteurs d'électricité. Et l'objectif d'EDEN, équilibre des énergies, c'est de contribuer à la décarbonation de l'économie française en expliquant le point de vue des entreprises auprès des pouvoirs publics. Nous avons un groupe scientifique extrêmement, extrêmement fourni. Et donc, nous appuyons nos propositions, nos notes, nos rapports sur des bases scientifiques extrêmement solides.
D'accord, merci. Donc Franck, quand Brice Lalonde dit que des grands groupes industriels, acteurs de la construction sont présents, on peut imaginer qu'il y a quelques membres de la Fédération des promoteurs immobiliers.
Absolument. Bonjour. Et la Fédération des promoteurs immobiliers est également membre de cette organisation. Pour ce qui concerne la fédération, c'est une fédération qui regroupe environ un peu plus de 650 membres à travers la France et qui est représentée avec des délégations régionales. Et moi, je travaille en tant que directeur technique et innovation au niveau de la Fédération nationale sur tous ces sujets d'intégration des évolutions technologiques, réglementaires dans nos métiers.
Très bien. Alors, Florence Delettre le rappelait, on a vécu en France pour la construction des bâtiments sous l'ère de plusieurs réglementations thermiques. On arrive aujourd'hui à l'aune d'une réglementation environnementale qui prend en compte les enjeux carbone. Alors, sa question était, est-ce suffisant? Est-ce que tous les moyens sont mis en œuvre? Est-ce que cette nouvelle réglementation environnementale va amener véritablement un gain important?
Alors d'abord, il faut qu'elle soit publiée. Elle n'est pas encore arrêtée, cette réglementation. On entend des bruits et comme on entend des bruits, des rumeurs, du coup se déchaînent en quelque sorte tous les groupes de pression qui s'angoissent ou qui au contraire sont contents. Voilà. Alors, ce qu'il faut, je pense, le plus important à dire, c'est que jusqu'à présent, les réglementations thermiques des bâtiments se fondaient sur l'économie d'énergie. C'était ça l'objectif. Il fallait économiser l'énergie, quelle que soit l'énergie, en quelque sorte. Et on ne se préoccupait pas du changement climatique. On se préoccupait uniquement des calories. Et ce qui fait que, de mon point de vue, on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on a laissé filer, en quelque sorte, les émissions de gaz carbonique qui sont D'accord. à l'origine du changement climatique. Cette réglementation, si, au contraire, la 2020, donc, devrait, au contraire, viser essentiellement les émissions de gaz carbonique pour les réduire. Et donc, c'est une nouvelle étape dans la réglementation des bâtiments. Et elle est d'autant plus importante que, à cause de la réglementation précédente, à peu près 70% des bâtiments collectifs neufs étaient chauffés au gaz. Alors évidemment, le gaz, il a quelques avantages, si vous voulez, mais il envoie du CO2. Alors que nous savons aujourd'hui que l'essentiel de nos efforts doit être de se débarrasser, de se passer des combustibles fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz naturel.
Oui, donc, et le secteur du bâtiment, en termes de solutions, finalement, les solutions sont à disposition. D'autres secteurs d'activité dans l'économie française, ça va peut-être être plus difficile pour eux. On peut penser notamment à certaines productions industrielles ou des transports terrestres ou aériens. Mais le bâtiment peut se passer d'énergie fossile. Franck Kovorka, quand Brice Lalonde rappelait que 70% des bâtiments construits sous l'ère de la RT 2012 sont chauffés avec des solutions gaz, des solutions carbonées tout au moins, ça va impacter énormément la façon d'être et la façon de faire pour le métier de promoteur immobilier?
En préambule, déjà, je rappellerai que la réglementation environnementale 2020 va s'adresser aux bâtiments neufs.
D'accord.
Donc, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Quand on parle de réduction d'impact carbone, je vous rappelle qu'on a quand même un stock, 35 millions de logements, et de quelques dizaines de millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires. Donc, cette réglementation ne touchera pas au stock en l'état. Donc, il s'agit, en l'occurrence, avec cette nouvelle réglementation, de proposer l'intégration du calcul carbone dans les bâtiments neufs. Encore une fois, quand on parle de neuf, on parle à peu près 1% du stock chaque année.
Oui, de renouvellement, d'accroissement. De renouvellement,
absolument, et d'accroissement. Donc, restons raisonnables. On est en train de parler d'1% quand vos propos traitent du 100%. Donc, il reste 99% à traiter. Et là, la réglementation environnementale 2020 n'abordera pas du tout ce sujet-là, c'est un autre débat et qui sort complètement du champ aujourd'hui de notre fédération qui s'adresse principalement aux neufs, même si de plus en plus de nos adhérents travaillent sur de la rénovation lourde, y compris en centre-ville, parce que le sujet est évidemment important pour l'ensemble des collectivités. Donc là, l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner l'ensemble de nos adhérents et de leurs salariés vers un nouvel indicateur, qui est celui du carbone. Alors aujourd'hui, il faut être clair, à part quelques spécialistes parisiens et très pointus, ce sujet est méconnu de l'ensemble de nos professions. Donc comment allons-nous faire pour former, ne serait-ce qu'en maîtrise d'ouvrage, on estime qu'on a 4 à 6 000 personnes à former avant la mise en œuvre. Et quand je dis former, c'est même donner les informations basiques sur ce qu'est une analyse de cycle de vie, le poids carbone des produits de construction, le poids carbone de la rénovation et du remplacement de ces produits au cours du cycle de vie, et le poids carbone des énergies choisies en fonction des solutions qui seront mises en œuvre dans le bâtiment.
Alors, juste par rapport à ce que vous disiez sur ce 1% de progression, vous rappeliez, Brice Lalonde, qu'on a sans doute fait collectivement des erreurs par le passé. J'ai le sentiment qu'au travers de cette réglementation, l'idée, c'est de pouvoir se dire, ces bâtiments que l'on va construire à l'aune de cette réglementation 2020, donc à partir de 2021-2022, finalement, pour les grands objectifs à venir, on n'aurait plus à avoir de grands mouvements de rénovation comme on va être devoir le faire sur le stock existant que vous évoquiez, Franck, tout à l'heure.
C'est l'objectif affiché, de dire que avec cette réglementation sur le neuf, a priori, ces bâtiments neufs construits à partir de 2021 n'auront plus à subir de rénovation d'ici 2050. Ça, c'est l'objectif. Après, comme le disait le président Lalonde, je ne suis pas devin et je ne sais pas ce que préparent les bureaux d'études qui, aujourd'hui, travaillent en chambre pour la mise au point de ces indicateurs et des seuils.
Il y a plusieurs, quand même, donc domaines qui seront touchés par cette nouvelle réglementation, du moins le pense-t-on. Mm-hmm. Il y a d'abord la conception même des maisons neuves, ce qu'on appelle le bébé bio, c'est-à-dire on va quand même demander, renforcer les exigences d'isolation, d'exposition par rapport au soleil, etc. etc. Donc ça, c'est donc déjà très important. On va évidemment traiter du confort d'été, puisque avec le réchauffement climatique, on a des canicules maintenant, et certains bâtiments qui étaient très bien isolés, naguère, sont intenables en été. On va s'occuper de l'aération, donc de la santé un petit peu.
Santé et du confort.
Hein. La santé et du confort. Donc tous ces éléments sont évidemment très importants, et c'est assez difficile, mais il faut dire quand même que les entreprises en général ont eu maintenant depuis quelque temps l'obligation de calculer leur périmètre carbone, selon d'ailleurs trois, on appelle ça les trois scopes, c'est-à-dire que combien est-ce que vous-même dans votre entreprise, dans l'activité de l'entreprise, de l'arrivée en voiture éventuellement de vos collaborateurs, combien ça envoie de gaz à effet de serre? Votre électricité, vous l'achetez comment? C'est le deuxième périmètre. Et donc, est-ce que c'est une centrale à charbon ou une centrale nucléaire? À ce moment-là, c'est très différent. Et puis enfin, vos fournisseurs, hein, votre chaîne de valeur, comment est-ce que vous pouvez calculer votre périmètre? Donc les entreprises, ça fait déjà longtemps qu'elles ont ceci à faire. Bon, et donc ce n'est pas totalement anormal de penser que les constructeurs auront le même effort à faire.
Et effectivement, quand on parle d'analyse de cycle de vie, donc on a bien l'impact carbone de tous ces matériels et matériaux qui vont être mis en œuvre. Là, on va vers des choses plus vertueuses de la part des produits de construction. Vous voyez
il aurait fallu inviter les industriels, que je ne représente pas, car je rappelle que nous, promoteurs, travaillons avec des maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs et des industriels dont le rôle est de fournir des produits pour la construction.
Mais vous voyez sans doute poindre quand même des solutions.
Alors on voit surtout poindre les fiches de données environnementales et sanitaires.
D'accord.
Qui permettent d'analyser sur l'ensemble du cycle de vie l'impact carbone de ces produits. Mais comme le disait le président Lalonde, je pense qu'il est important dans la vision carbone que l'on va avoir d'avoir une réflexion à plusieurs échelles. C'est-à-dire le bâtiment, il n'est pas isolé tout seul, il n'est pas hors sol. Ce bâtiment, il est connecté sur un territoire. Et donc, ce bâtiment, il a un impact qu'on va appeler d'énergie grise. Toute l'énergie, il y a le carbone émis par les produits de construction. Il a ensuite les émissions de carbone liées à ces énergies pour faire fonctionner le bâtiment. Oui. Et puis, n'oubliez pas un autre impact qui est quand même important, c'est tout ce qui est branché dans le bâtiment. Et que c'est quand même aussi ce qui est la courbe la plus constante en termes d'augmentation de consommation depuis 20 ans de tout ce qui est branché dans l'immeuble.
Alors, l'usage autre que, le fonctionnement même du bâtiment, le chauffage,
exactement,
le rafraîchissement, la ventilation.
Vous regardez dans le tertiaire aujourd'hui, vous pouvez monter jusqu'à 300 kWh mètre carré énergie primaire sur certains bâtiments tertiaires équipés avec des serveurs. Et quand on parle d'une réglementation 2012 à 50 kWh mètre carré par an, donc vous voyez, il y a une réflexion à avoir sur l'ensemble du scope, d'ailleurs dans les expérimentations qui ont été menées, c'était intéressant de pouvoir aussi agir sur ces éléments-là. Est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir des équipements électroménagers plus performants, de brancher ces machines à laver sur de l'eau chaude sanitaire à faible impact carbone et pourquoi pas. Enfin, vous voyez, il y a plein de solutions multiples qui permettent de croiser ces solutions-là. Et je n'oublie pas le quatrième volet, qui est la mobilité contrainte. Quand vous mettez un habitat ou un bâtiment de bureau quelque part, vous obligez les gens à y venir et à se déplacer. Donc comment vous gérez cette mobilité? Est-ce que le bâtiment peut avoir un rôle aussi, autre que de mettre des parkings en sous-sol, qui est aujourd'hui c'est la seule action historique que vous ayez vu apparaître depuis l'abandon des voitures à cheval et du remplacement de l'écurie par le parking. Mais il peut se passer autre chose. Vous souriez, mais c'est un impact très
bien
lourd.
Sûr, bien sûr.
Aujourd'hui, la mobilité, c'est 2 à 3 fois plus que la consommation du bâtiment par lui-même. Donc, vous voyez que le rôle que nous allons tous avoir, politique, collectivité locale, directeur des services techniques dans les collectivités, promoteur, ingénieur, architecte, va être de porter sur le débat public ce genre de conversation qui va être de dire, ok, nous on veut bien faire des efforts sur le bâti, accompagner des industriels, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi nos mobilités et mettre l'argent à bon escient? C'est-à-dire qu'on va avoir, je pense, dans les années à venir, un questionnement sur l'efficience de l'euro investi.
Et tout cela, finalement, donc, toute cette augmentation liée à des usages complémentaires ou différents que le seul fonctionnement du bâtiment, est-ce que les performances que l'on va y accorder, et donc une nouvelle fois en termes de bâtiment, en termes de mobilité, ainsi de suite, ne nous permettrait peut-être pas de ne pas diminuer autant que cela le nombre de kilowattheures consommés à l'échelle du pays, mais des kilowattheures plus vertueux, président Lalonde.
Alors, de toute manière, cette question est très pertinente, puisque c'est maintenant, dans tous les plans d'urbanisme, une question qui est soulevée avec ce qu'on appelle les plans de déplacement, je ne sais plus quel est le nom. Par exemple, la ville de Paris interdit de construire des bureaux qui ne soient pas sur une ligne de bus ou de métro et interdit de construire des garages pour les bâtiments tertiaires de manière à ce que les gens ne viennent pas en voiture. Mmh. Alors, c'est assez raide, hein, il y a une discussion bientôt municipale. Mais voilà, donc si vous voulez, c'est parfaitement exact. Et ce qui est très intéressant avec les temps nouveaux qui s'approchent, c'est que les voitures sont électriques ou deviennent de plus en plus électriques. C'est une nécessité, là encore, pour décarboner le transport par les voitures particulières. Elles pourront être complémentaires, si je puis dire, de la consommation d'électricité de la maison et même du réseau électrique tout entier, puisque les batteries des voitures pourront servir de stockage à l'électricité. Elles pourront revendre aux heures de pointe cette électricité au réseau ou servir de batterie à la maison en cas de pointe. Et puis ensuite, elles pourront se resservir, si je puis dire, recharger pendant les heures creuses. Bon, donc tout ça, c'est devant nous. Et ça, c'est lié à une forme d'énergie, vecteur d'énergie très important qui est l'électricité. C'est-à-dire que nous savons maintenant, et tous les rapports le disent, si on veut décarboner, eh bien le vecteur électrique est sans doute le meilleur, puisque l'électricité, vous pouvez la produire de manière décarbonée. Tandis qu'évidemment, le gaz, le pétrole ou le charbon, par leur nature même, sont fossiles et envoient du carbone. Et ça, c'est donc très important, et ça va se heurter à une disposition du règlement thermique d'antan, qui est la conversion, c'est-à-dire qu'il faut calculer en énergie primaire. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'énergie primaire, mais grosso modo, dans la réglementation d'avant, l'électricité était pénalisée, parce que pour les théoriciens, en quelque sorte, du rendement énergétique, l'électricité, elle n'existe pas dans la nature, il faut la produire. Comme il faut la produire, du coup, on met un handicap à l'électricité. Mm-hmm. Mais ça, c'est parfaitement compréhensible du point de vue du changement climatique si l'électricité est produite par du fossile, c'est-à-dire les centrales à charbon allemandes, pour dire les choses. Là, oui. Là, il faut économiser le charbon, bien entendu, et en brûler le moins possible. Mais en France, l'électricité, elle est produite par des renouvelables, l'hydraulique et le nucléaire, qui n'envoient pas de carbone. Et donc, au contraire, il faut au contraire changer la réglementation au sens où là, il faut plutôt favoriser la pénétration de l'électricité. Et les rapports de l'Agence internationale de l'énergie disent qu'il faut électrifier davantage. En France, par exemple, nous avons 25% de nos usages finaux qui sont l'électricité. Mmh. Il faudrait passer à 50%. Et puis, vous avez d'autres, évidemment, vous avez la chaleur renouvelable, le bois, la star numéro un, maintenant, c'est la pompe à chaleur. Extraordinaire instrument qui, avec un tiers d'électricité, vous permet d'avoir deux tiers, si je puis dire, de chaleur que vous allez prendre dans l'environnement pour la remettre à l'intérieur de la maison. Donc, vous avez ces magnifiques performances, si vous voulez, des instruments nouveaux qui fonctionnent à l'électricité. Il faut se servir de ça.
Alors, ça m'amène, Franck, à une interrogation. Est-ce que donc ce que le président Lalonde présente comme un handicap, ce coefficient de transformation en énergie primaire, est-ce que c'est véritablement un handicap pour les promoteurs pour répondre aux exigences du bas carbone de façon concrète et opérationnelle? Et puis cette magie de la pompe à chaleur dans son fonctionnement tel qu'il nous le décrivait, est-ce que ce sont des solutions déployables par les promoteurs de façon facile pour aller vers cette démarche bas carbone?
Alors, je vais répondre, parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Déjà, nous, notre question aujourd'hui, c'est intégrer le carbone, je vous l'ai dit. Mm-hmm. Donc, il va falloir expliquer aux gens ce qu'est une analyse de cycle de vie, de l'impact carbone, des choix structurants de systèmes énergétiques, et tout ça en ayant une conversation intelligente avec les collectivités locales, encore une fois, parce que ça sert à rien de surinvestir dans du bâti pour gagner 10% de consommation de chaleur.
Bien sûr.
Si derrière, vous avez une augmentation ou un doublement lié au transport. Donc il y a aussi des moments où il va falloir parler cohérence. Et c'est là le sujet, je pense, majeur de cette réglementation, c'est arriver à penser cohérent. C'est-à-dire ne pas dire « Ah bah c'est lui le coupable, donc c'est à lui de faire tel sujet ». Encore une fois, c'est pour ça que je remettais le neuf dans l'environnement global du stock.
Oui, on est d'accord.
Et qu'il faut remettre les choses à leur juste échelle. Et encore une fois, les promoteurs sont des gens responsables, qui prendront leurs responsabilités, qui mettront en place des évaluations carbone. Alors, pour faire ça, effectivement, il y a plusieurs solutions énergétiques. La pompe à chaleur en fait partie, mais c'est pas magique, une pompe à chaleur. Hein. Déjà, pour commencer, c'est un truc thermodynamique bien connu, ça n'a rien de magique. Et pour que ça fonctionne, il faut mettre dedans des fluides frigorigènes qui, si possible, ne seront pas interdits en 2021 ou 2023. Je vous rappelle quand même que tous ces fluides sont sous protocole international dit de Montréal, mmh. et que ces protocoles ont fait l'objet d'un amendement, qui s'appelle l'amendement de Kigali, qui interdit un certain nombre de fluides frigorigènes dans les années à venir, parce qu'ils ont un pouvoir réchauffant qui est 20 000 fois celui du carbone. Vaut mieux éviter les fuites ne pas se tromper de fluide. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de magie. Deuxième sujet, si vous voulez parler de pompe à chaleur, mais une pompe à chaleur, ça fait du bruit. Donc il faut les mettre, si possible, à l'écart des zones où il va y avoir du bruit. Même si aujourd'hui les machines ont des niveaux sonores très faibles, à partir où on rentre dans le collectif, il va falloir changer les plans, les règlements de locaux d'urbanisme. Est-ce que vous allez nous autoriser à mettre ce qu'on appelle des édicules, c'est-à-dire du bâti sur le toit d'un immeuble, oui. qui permettent d'y mettre ces pompes à chaleur. Aujourd'hui, je ne vais pas sacrifier, moi, promoteur,
des mètres carrés.
Un étage pour mettre la pompe à chaleur. Mmh. Vous voyez, donc il y a, je pense, là aussi, un travail extrêmement important de mise en cohérence. C'est-à-dire que ce n'est pas des décisions magiques où on dit avec une baguette magique, on va faire ci, on va faire ça. Non, il y a une réflexion à mener sur les territoires en fonction de ces plans d'urbanisme. Je prends un exemple, par exemple, on sait que le bois nécessite plus de hauteur de poutre.
Le bois construction.
Le bois construction, pardon. Il nécessite plus de hauteur de poutre. Donc un certain nombre d'élus ont dit, si vous construisez en bois, la hauteur maximale est remontée de X mètres pour tenir compte de cet impact. Exactement. Donc, vous voyez, il y a ce travail-là à faire de préparation. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme cela que les travaux qui ont pu être menés au niveau du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et de la direction de l'habitat et de l'urbanisme ont permis de travailler sur le fait de dire qu'on repousse de quelques mois cette réglementation, qu'on y travaille et que la mise en œuvre se fera, nous l'espérons, de manière progressive et étagée pour que tout le monde puisse s'en emparer et qu'on puisse, encore une fois, aussi avoir des réglementations cohérentes globalement. Parce que l'ère 2020, comme vous l'avez compris, ne touche pas que la partie ère 2020. Il va falloir aussi changer les choses autour.
Exactement. Écoutez, messieurs, on va arriver au terme de cette émission. Le temps passe vite et je vois que le sujet nous amènera certainement à nous revoir prochainement pour poursuivre ces échanges. En tout cas, on a devant nous un objectif intéressant, un challenge intéressant et les réponses vont venir. Le mot de la fin est à Florence Delettre.
Le confort dans l'habitat, parole à Florence Delettre, directrice générale de Promotelec.
En vous écoutant, j'ai entendu formation, j'ai entendu mise en cohérence des différents intervenants pour tout le cycle de la de vie du bâtiment, qu'il soit de la conception à la construction, à la gestion, y compris le contexte dans lequel il s'insère, avec la mobilité, etc. J'ai entendu le mot électricité, qui en France, bien évidemment, est décarboné, puisque c'est une électricité à 80% nucléaire et le reste hydraulique, et il y a très très peu de combustibles fossiles. Mais en vous entendant, j'ai une interrogation, c'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle réglementation thermique qui est sur les bâtiments neufs. On a vu qu'il n'y a que 1% de renouvellement du parc tous les ans. Bien sûr, il y a d'autres mesures aujourd'hui sur les isolations, sur la performance énergétique, etc. Où on a un grand débat et on est tous engagés, je dirais même mondialement, sur ce sujet. Je ne veux pas avoir de côté anxiogène ou pessimiste, mais même si des efforts sont faits, en entendant, il faut préparer les gens, il faut expliquer le carbone aux gens pour réduire les gaz à effet de serre, pour avoir une France décarbonée. Je me dis que on n'a pas une minute à perdre. C'est-à-dire que il faut être dans l'action, il faut se mettre d'accord vite, et que le débat fossile, le débat électricité. j'oserais dire, il est presque caduc, puisque on a une électricité décarbonée, profitons-en. Après, travaillons sur les matériaux, travaillons sur l'intégration, mais travaillons vite. Merci.
Merci à tous.
Le confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.